Bon, Freud, ça me paraît un peu bête d'en parler comme ça, parce que c'est un personnage qui est tellement important et tellement connu qu'on ne peut que répéter une fois de plus ce qu'on entend de tous les côtés. Enfin, pour moi, c'est un personnage extraordinaire. C'est un personnage qui dépasse de loin la plupart de ses contemporains par son humanité, par sa sagesse, par son intelligence et par le travail qu'il a fait. Le travail qu'il a fait, il l'a fait progressivement. Quand il était jeune, il était très doué. Et c'est plus tard qu'il a vraiment approfondi ses connaissances qu'il avait quand il était jeune. Il a entrepris au début des études qui étaient surtout... Il avait commencé la philo, mais il a laissé tomber. Et il a fait surtout des études d'anatomopathologie, où il s'est fait connaître dès l'âge de 21 ans, puisqu'il a trouvé... Dans une recherche à Trieste, dans un laboratoire qui était connu, il a découvert les anguilles avec des testicules. C'était la première fois au monde qu'on découvrait ça. Il a fait une publication à 21 ans. Alors de là, après, il a eu toute une série de travaux et de publications qui étaient d'anatomopathologie. C'était son métier. Il était penché sur le microscope à longueur de temps et il publiait des articles sur ce qu'il avait trouvé, sur par exemple, une coloration en or, ou des choses comme ça. Et puis on arrive petit à petit à l'époque où, c'est 1856, il vient à Paris chez Charcot. Alors il vient avec une bourse qui lui a été accordée, et le voilà chez Charcot, où il subit une sorte d'éblouissement. Il est ébloui par Charcot, qui trouve que c'est un personnage admirable. Il est ébloui à ce moment-là par Paris, par Notre-Dame, les gargouilles. Enfin, il est vraiment tout à fait un homme qui arrive dans un autre monde. En plus, il va souvent au théâtre, Molière. Bon. Et puis surtout, il découvre qu'il y a des prolongements psychologiques aux phénomènes qui sont habituellement considérés comme somatiques. En particulier, justement, les crises d'hystérie que l'on provoque. Et grâce à Charcot, il s'aperçoit qu'en prolongeant l'étude d'hystérie, en tapant, en répétant le traumatisme initial, on arrive à guérir. Ça, c'est une grande trouvaille qu'il fait et qu'il va approfondir dans les années qui suivent, où il se lie d'amitié avec Wilhelm Fliess, qui est un Allemand, qui est très distingué, mais très, très savant, et qui est embarqué dans des théories otorhino-laryngologistes sur des dates. Les dates, il parle entre autres des liens entre le rhinopharynx et la sexualité, ce qui aussi va dans le sens des premiers intérêts de Freud. Car Freud, de retour de chez Charcot, s'est installé comme médecin à Vienne, moyennant quoi, ben, il a essayé de faire ce qu'on faisait de son temps, c'est-à-dire des traitements électriques, des chocs ou des choses comme ça, électriques, pas de résultats. Après, il essaye l'hypnose, toujours pas beaucoup de résultats, et il comprend quand même qu'en mettant les positions, ses patients en position allongée, en disant de se détendre, et en les laissant parler, ils vont lui ouvrir des voies de recherche dans le passé, ce qui est une idée qui est venue de son ami Joseph Breuer, qui disait qu'il faut trouver dans le passé l'origine du symptôme. Alors, ça devient un moyen purement comme ça, sans rien, ni les mains, ni rien du tout. Et il se trouve que spontanément, les patients lui racontent les rêves. Et donc, il se dit, ah, c'est intéressant, et il va approfondir toute cette recherche qu'il fait sur les rêves, et c'est l'interprétation des rêves, le livre qui sort juste en 1900, et qui va déterminer vraiment le grand tournant de sa carrière, et le fait qu'il commence à être connu comme un psychanalyste, puisque ça commence tout juste à se laisser entrevoir, c'est en 1896 que le mot psychanalyse apparaît pour la première fois dans un écrit en français qui est de Freud. Parce que Freud, avec Charcot, est publié dans la revue neurologique et fait des articles en français. Et c'est là qu'apparaît donc le mot psychanalyse. Donc, à partir de 1900, de 1901, 2, 3, 4, 5, il va petit à petit se faire connaître et reconnaître comme étant un médecin un peu spécial, un peu fou, disent les uns. Un pornographe, disent les autres. Enfin, il y a des tas de qualificatifs qui ne sont pas toujours positifs, mais qu'il l'incite à travailler. Et en 1905, il publie entre autres les essais sur la théorie de la sexualité qui vont là vraiment marquer définitivement son ancrage. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à partir de 1906, arrivent des disciples. Alors arrivent Ferenczi, Jung, Abraham, enfin, tous les disciples qui vont former l'équipe extrêmement importante de chercheurs qui vont développer et continuer à aller un peu plus loin dans la théorie de Freud. Avec la plupart, ça se passe pas trop mal, ça se passe même bien, sauf avec Jung, puisque avec Jung, dès le départ, ils savent qu'il y a une divergence de point de vue. Une divergence parce que Jung est un peu un idéaliste, est un peu passionné de phénomènes parapsychologiques, etc., sur lesquels il a travaillé, et qu'il n'est pas du tout partisan de la théorie de la sexualité que défend Freud, puisque Freud défend l'idée qu'au principe, justement, de tout symptôme, il y a un phénomène qu'il qualifie de sexuel. Et sexuel, ça ne veut pas dire, comme maintenant, des coucheries, des choses comme ça. Ça veut dire du plaisir, un plaisir qui est pour lui d'origine sexuelle. Donc, avec Jung, ça va se terminer en 1914 par une rupture assez agitée. Enfin, heureusement, la guerre va calmer tout ça parce que Jung va fonder, là, lui, autre chose, c'est-à-dire un mouvement de psychothérapie analytique. Et il interdit à ses disciples de se nommer psychanalyste. Maintenant, tout le monde se nomme psychanalyste. Donc, ça ne joue plus. On ne va pas maintenant, en l'an 2015, discutailler sur les mots psychanalyse et psychanalyste. En tout cas, donc, le voilà, Freud qui continue à travailler et continue à publier d'abord des cas de malades qu'il a eus et dont il montre comment chaque cas le conduisait à découvrir quelque chose plus approfondi qui allait dans le sens donc de la théorie psychanalytique. Et puis après, bien, il est en 1923, il est atteint d'un cancer, il découvre son cancer qui va lui valoir un nombre invraisemblable d'opérations jusqu'à la fin de sa vie qui vont vraiment l'affecter, mais qui ne l'empêche absolument pas, et ça c'est quelque chose de tout à fait curieux, je le dis dans mon bouquin, les 100 questions sur Freud, ça ne l'empêche absolument pas d'écrire. C'est-à-dire que dans une même année où il a des consultations, on lui fait une opération, il continue à écrire, à produire les bouquins extrêmement importants que sont « Malaise dans la civilisation » ou le bouquin sur la religion. Enfin, il fait toute une série de livres qui sont tout à fait important et encore plus important peut-être maintenant, puisqu'il prend un peu de distance par rapport à la clinique à proprement parler, pour aborder des sujets plus généraux. Tout ça se passe à ce moment-là, en même temps que ces opérations. Alors arrive 1933, Hitler au pouvoir. On lui dit, il faut que vous partiez, pardon, monsieur le professeur, il faut que vous partiez, que vous quittiez. Il dit, non, je ne veux pas, je veux rester là. De toute façon, je risque pas grand-chose, et puis si je meurs, je meurs. Enfin, il a toute une série de refus de quitter Vienne, jusque quand même au moment où c'est l'Anschluss, c'est-à-dire la pénétration de l'Allemagne en Autriche, qui est suivie paradoxalement à Vienne, par un enthousiasme absolument délirant pro-hitlérien, avec d'emblée une persécution des juifs qui va très loin, qui va même plus loin qu'en Allemagne. Alors, il est face à ce phénomène. Sa fille, Anna, qui est son Antigone, qui est sa garde malade, qui est celle qui s'occupe de son œuvre, qui s'occupe de ses soins tous les jours, qui est vraiment une infirmière, plus qu'infirmière, dévouée et tout. Mais ce jour-là, elle est emmenée par la Gestapo. Alors la Gestapo, la garde la journée, elle réussit finalement à sortir. Et là, Freud décide, c'est bon, je vais quitter. Alors, il se débrouille, il a la princesse Marie Bonaparte, qu'il a depuis un certain temps sur son divan, et qui est devenue plus qu'une patiente, une amie proche, et qui a des sous, ce qui est utile, et des relations, ce qui lui permet de payer les taxes absolument effrayantes que réclame Hitler pour lui donner le droit de sortir, et puis qui permet, entre autres, donc, qu'il quitte en juin 1938, il va quitter Vienne et arriver à Paris, chez Marie Bonaparte, où il a passé quelques heures, avant de s'embarquer pour l'Angleterre, le soir même, et débarquer donc à Londres, où il va bientôt trouver une petite maison qui existe toujours, qui est devenue un musée Freud, qui est une maison charmante, et où il va s'installer jusqu'au jour, en 1939, vers le 21 ou 22. Il appelle son médecin, qui est le docteur Schur, en lui disant, écoutez, je vous ai dit au début, rappelez-vous, que je ne vous demandais pas de produits pour m'endormir, pour me calmer trop. Et je vous ai dit, si je vous le demande un jour, il faut le faire. Et je vous le demande. Alors Schur comprend qu'il est arrivé complètement au bout. D'ailleurs, son chien ne veut plus rester près de lui. Il est au bout de sa vie d'être de chair. Et ça a toujours été un être de chair, Freud. Et pas du tout un espèce d'esprit qui plane comme ça au-dessus des choses, des gens et du monde. Bon. Et donc, Schur dit, je vais demander à Anna. Anna dit ok, et c'est comme ça qu'il meurt le 23 septembre 1939. Il est incinéré à Londres et ses cendres sont dans une belle urne grecque que lui avait offerte Marie Bonaparte. Voilà donc la vie de Sigmund Freud, mais c'est une vie qui est passionnante à lire et à regarder. Alors je vous disais tout à l'heure les psychanalyses et la psychanalyste. Maintenant, c'est devenu un peu n'importe quoi. N'importe qui voit quelqu'un pendant une heure peut très bien s'intituler psychanalyste sans qu'on lui dise rien, surtout s'il a la mention de psychothérapeute. Alors là, ça y est, c'est gagné. Et c'est la raison pour laquelle j'ai suggéré un jour, j'étais en Amérique, à New York, et il y avait toute une réunion de VIP, de psychanalystes, surtout de l'IPA, donc très orthodoxe, et qui avait fait les topos, le psychanalyste m'avait tellement cassé les pieds que je me suis levé, je dis, écoutez, je propose que vous rendiez compte que psychanalyse, vous couvrez n'importe quoi. Ce mot-là, maintenant, ne veut plus dire une chose en soi, et couvre n'importe quoi. Je vous recommande de le supprimer de votre vocabulaire et de remplacer par la notion quand même beaucoup plus ouverte de pensée de Freud. Inutile de vous dire que ma proposition n'a pas été suivie des faits et qu'elle l'est de moins en moins, puisque de moins en moins, on trouve des psychanalystes qui sont proches de la pensée de Freud. Quand je parlais de pensée de Freud, je ne pensais pas une pensée auquel on tient, auquel on est accroché, mais plutôt un ferment d'idées, un ferment de pensée, un ferment dans le contact avec les autres. Et ça me paraît la chose essentielle, qui reste et qui restera d'ailleurs longtemps, alors que les psychanalyses, divans, tout ça, se feront plus. Et puis qu'un jour, peut-être, un groupe de chercheurs ou un chercheur isolé fera comme Freud de son temps, qui avait pris dans son entourage scientifique, dans les idées, il avait un peu farfouillé en prenant un truc à droite, un truc à gauche, pour bâtir ses propres théories, mais qui était resté très attaché aux théories de son temps au départ. Je pense que peut-être un jour, dans X années, il y aura peut-être un homme qui aura le même genre de comportement, ou un groupe de chercheurs, je pense en particulier aux études de neurosciences qui sont actuellement tout à fait importantes et qui commencent à peine, parce qu'elles sont éloignées, comme c'est pas permis, de la psychanalyse, pour pas en parler. Mais enfin, disons qu'elles cherchent et peut-être un jour les chemins se rencontreront. Je n'en sais rien. Je sais en tout cas, je ne serai plus là.